Que tu sois près de la dalle ou près de la collégiale, 6h-9h, c'est la matinale.
Bienvenue sur BPM, il est 8h03. Comme je vous le disais, Raphaël Cogné est notre invité. Bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Le maire de Mantes-la-Jolie est dans nos studios. Raphaël Cogné, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez été élu le 15 mai dernier au premier tour avec 51% des voix, réinstallé en tant que maire le 21 mai par le conseil municipal. Est-ce que ce fut une campagne difficile pour vous ?
Oui, ça a été une campagne très longue, très difficile pour moi, pour mes équipes et puis aussi pour Mantes-la-Jolie parce que c'était un combat entre des gens qui avaient travaillé ensemble, donc forcément un combat très violent. Mais vous savez, en politique, il y a le temps des campagnes et puis il y a l'après. Donc maintenant, je me projette dans l'après. Les Mantais ont tranché. Ils ont tranché clairement et d'ailleurs, je les remercie de tous ceux qui ont... Je veux remercier tous ceux qui ont voté pour nous et puis dire à ceux qui ne l'ont pas fait que désormais, je me considère comme le maire de tous les habitants de Mantes-la-Jolie. Et c'est dans ce sens que nous travaillons.
Alors, être élu au premier tour avec 6 listes et arriver au premier tour à 51%, vous deviez être heureux ce soir-là.
Ah bah, je dois avouer que ça a été un des meilleurs moments politiques de ma vie, parce que quand on a une campagne aussi dure et qu'on a une telle confiance de la part de la population, c'est qu'on se dit qu'on a été compris et il y a quelque chose d'assez gratifiant et puis aussi d'assez émouvant, parce que on sait jamais, vous savez, tous les élus, quand les gens commencent à voter... attendre le résultat en se disant est-ce que mon message est passé, etc. Donc là, il est passé. Et donc ça a été une grande satisfaction et puis surtout une grande satisfaction de voir que pendant toute la campagne, jamais le soutien de la population ne m'a manqué. Donc même si c'était une campagne très difficile d'un point de vue personnel et j'allais dire psychologique, le fait d'avoir une telle confiance dès le premier tour, ça redonne beaucoup de légitimité et puis surtout beaucoup de courage.
Alors, un mois plus tard, le 19 juin, votre première adjointe, Edwige Gervieux, que vous souteniez, n'a pas réussi à se faire élire député de la 8e circonscription. Et même avec des scores sévères, hein, Mantes-la-Jolie, Benjamin Lucas 62%, Edwige Gervieux 38%. Alors, comment expliquer ce résultat ? Ça n'a pas marché, la dynamique des municipales ?
Vous savez, les élections, ce sont des élections différentes. Au municipal, les Mantais, les habitants de Mantes-la-Jolie nous ont dit « Je veux que Raphaël Cogné redevienne maire de Mantes, puisse appliquer le programme pour lequel je l'ai élu en 2020 et que son équipe soit renouvelée. » Et puis après, il y a eu ces élections législatives où là, les habitants de Mantes-la-Jolie et du Mantois nous ont dit « On veut un député NUPES à l'Assemblée nationale. » Donc je suis déçu pour Edwige parce que je pense qu'elle aurait fait une excellente députée et que pour quelqu'un qui connaît bien le territoire, ça aurait été une chance pour elle et pour le territoire de siéger à l'Assemblée nationale. Maintenant, vous savez, une élection, c'est une élection. Donc quand les habitants décident, eh ben, vous vous adaptez. Donc je suis déçu pour Edwige, déçu un petit peu aussi pour Mantes parce que on aurait eu besoin, je pense, d'un député de la majorité pour nous aider à développer nos projets. Maintenant, ça aussi, c'est derrière nous et je garde Edwige Hervieux à mes côtés comme première adjointe. J'en ai besoin parce qu'on a beaucoup de travail à la mairie à faire ensemble parce qu'un binôme maire-première adjoint, c'est un binôme très important. Et donc, même si la déception est passée par là, eh ben, on s'est remis au travail dès le lendemain. Donc, déçu, oui, évidemment. Maintenant, pas abattu du tout.
Alors, vous, en tant que personne, Raphaël Cogné, vous êtes plus quoi ? Macroniste, Édouard Philippe
Écoutez, c'est une question que je me suis beaucoup posée dans les mois qui viennent de s'écouler. Moi, vous savez, je viens des Républicains, j'y ai adhéré pendant une vingtaine d'années. J'ai gravi un certain nombre d'échelons à l'intérieur du parti, puisqu'il y a 20 ans, ça me rajeunit pas, je montais des équipes jeunes aux quatre coins de la France pour ce qui s'appelait à l'époque l'UMP. Donc je suis de cette tradition, de la droite républicaine et centriste. J'ai désadhéré des Républicains il y a 2 ans parce que je ne me sentais pas en accord avec un certain nombre de positions. Aujourd'hui, je suis un homme libre sans parti. Alors évidemment, j'ai des amitiés chez les Républicains. J'en ai aussi, c'est un secret pour personne, chez Horizon, par exemple. Je connais bien Édouard Philippe depuis longtemps. Mais ce que j'ai décidé personnellement, c'est de ne prendre ma carte nulle part pour pouvoir regarder ce qui se passe en prenant de la distance. En tant que maire, la question de l'étiquette partisane n'a pas tellement d'importance parce que quand vous faites une politique municipale, vous faites pas une politique municipale des Républicains ou d'Horizon. Donc je suis la politique nationale avec un grand intérêt parce que c'est quelque chose qui me passionne, mais je dirais que je me sens proche d'une droite qui soit une droite qui a vocation à gagner les élections et à être une droite de gouvernement, mais que de temps en temps je suis d'accord avec les Républicains, de temps en temps d'accord avec En Marche et Horizon, et donc je pense que je me situe au milieu entre les deux.
Alors, on va revenir à Mantes-la-Jolie. Il y a une semaine, le service prévention de la mairie de Mantes a été victime d'un incendie. Des individus se sont introduits, puis déversés de l'essence. Ils ont provoqué un début d'incendie maîtrisé par les agents sur place à l'aide d'extincteurs. Alors, où en est cette affaire ?
Dès le lendemain, je suis allé voir les équipes des salariés de la ville qui avaient été touchés par cette attaque pour les assurer de mon soutien, puisque le rôle du maire, c'est d'être au soutien de sa population, mais c'est évidemment aussi d'être au soutien de ses employés et de ses agents municipaux. Une plainte a été déposée, donc la police scientifique a fait un certain nombre de relevés, d'empreintes, etc. On va regarder ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai aucune information nouvelle, si ce n'est que la police avance. Mais tout ça est désolant parce que on a dans cette ville, je pense, une toute petite minorité qui veut empêcher les services municipaux de fonctionner et notamment le service de la prévention. Vous savez, le service de la prévention, c'est pas des policiers, c'est des gens qui vont au contact, notamment à des moments difficiles et notamment la nuit, des situations à problème pour le bien de la population. Donc, ce sont des gens qui se couchent tous les jours aux alentours de 2h30, 3h du matin pour faire en sorte que le reste de la population puisse vivre en sécurité et en paix. Donc, je les assure de tout mon soutien et j'espère que ceux qui ont fait ça seront punis sévèrement parce qu'il y a eu effectivement une tentative de destruction de biens publics. Il y a aussi un des agents qui a reçu de l'essence sur lui. Donc, on a vraiment frôlé le drame et je salue le courage de nos agents qui se sont mobilisés, qui ont éteint le feu et qui, dès le lendemain, étaient sur le terrain.
Alors, revenons sur la lettre que vous avez fait parvenir aux Mantaises et aux Mantaises. Dans cette lettre, vous voulez changer de méthode. Alors, c'est quoi la méthode, Raphaël Cognier ?
Ben la méthode Raphaël Cognier, c'est pas une méthode particulièrement originale, mais c'est une méthode qui consiste depuis 2017 à, sur tous les grands projets de la ville, parler avec les habitants de ce qu'on va faire ensemble à l'échelle de la ville. Donc, je fais beaucoup de réunions de consultation, j'en avais une hier soir pour parler de l'état de notre habitat en centre-ville. J'en ai une ce soir pour parler de ce qu'on va faire sur les espaces publics et les travaux de cet été. Et surtout, c'est une question d'attitude. C'est-à-dire que le maire et son équipe municipale doivent être des gens humbles, modestes et qui partagent leurs projets avec les habitants. C'est ça ma méthode depuis longtemps et je crois que c'est une méthode qui fonctionne parce que plus on implique les habitants dans la vie de la commune, mieux c'est et plus on a surtout du retour de leur part. Et donc, vous savez, moi, dans le métier de maire, ce que j'aime le plus, c'est être au contact de ma population, c'est aller déjeuner dans des familles, c'est aller rencontrer les gens chez eux, sur l'espace public. Et cette méthode, elle donne de bons résultats parce que je pense que les habitants de Mantes-la-Jolie nous font confiance. Un maire, il doit prendre parfois des décisions qui sont impopulaires. Et ces décisions-là, quand elles sont prises et qu'elles ont été prises après un vaste temps de concertation et d'échange avec la population, eh ben, elles sont plus faciles à faire accepter. Et puis, quand il y a des décisions qui font l'unanimité, elles passent sans problème. Donc on va continuer comme ça et c'est dans ce sens-là que j'essaye de former mes nouveaux élus parce qu'on a beaucoup de nouveaux, leur dire votre rôle numéro un, c'est pas tellement de résoudre immédiatement les problèmes parce que tous les habitants savent que c'est pas possible, mais par contre c'est d'être au contact direct de votre population pour comprendre ses besoins et essayer d'améliorer les choses petit à petit.
Alors ce mois-ci il y a une lettre au Mantais, mais il n'y a pas une magazine municipale distribuée aux habitants ?
Non, il n'y a pas eu de magazine municipal parce que quand nous sommes arrivés en mai à la mairie, le magazine du mois de juin n'était pas prêt du tout. Or, vous savez qu'un magazine municipal, pour qu'il soit distribué le 1er juin, il faut qu'il soit terminé en gros le 15 ou le 20 mai. Et donc, le magazine n'était pas prêt, donc j'avais deux choix. Ou bien faire un magazine de façon extrêmement rapide et ça aurait été un magazine de pas très bonne qualité. Donc, j'ai choisi de stopper la diffusion du magazine jusqu'au mois de septembre, sans doute inclus, parce que je pense qu'on aura le même problème pendant l'été, et de parler directement au Mantais via une lettre. Nous en distribuons une dans les prochains jours, une deuxième, parce que je n'aime pas dépenser l'argent des Mantais pour rien, et quand j'ai jugé que nous serions pas en capacité de faire un beau produit, j'ai préféré qu'on attende et qu'on se donne les moyens de recruter au service communication pour pouvoir réattaquer à la rentrée. Donc ça, c'est un choix qu'on a dû faire un petit peu dans l'urgence, c'était pas prévu. Mais administrer une ville, c'est aussi s'adapter. Et beaucoup de Mantais m'ont fait un retour très positif sur cette lettre du maire. Donc, je pense que les messages essentiels sont passés. On va évidemment réorganiser l'hôtel de ville et les services, notamment le service communication, pour, dès la rentrée, être en mesure de reprendre une activité normale.
Alors, vous vous êtes donné différents objectifs dans les 100 premiers jours de votre mandat. Le premier est de mener une opération main propre avec le lancement d'un audit juridique et financier de tous les dossiers municipaux par l'Agence française anticorruption. Alors, cet audit remontera jusqu'à quand ? Puisque on va rappeler que jusqu'à janvier, vous y étiez maire. Alors, vous n'allez pas faire un audit sur votre travail ?
Si, On va aussi, parce que vous savez, quand on audite, l'idée c'est de comprendre la situation dans laquelle on est, et puis de voir comment on peut améliorer nos procédures et nos process de décision. Donc, je vais évidemment appliquer cet audit à ma gestion aussi, parce que on a peut-être des choses à améliorer et à faire. J'ai demandé un audit dans trois directions. La première, c'est un audit en ce qui concerne l'urbanisme. Je veux comprendre, savoir qui achète les biens de la ville, qui fait des travaux en ville, qui mène des opérations de promotion immobilière en ville, pour être sûr que tout ça est conforme au droit. La deuxième, c'est un audit sur la commande publique. C'est toute la polémique qu'il y a eu la campagne autour des histoires de marché public et d'appel d'offres. Vous savez que j'ai attaqué la liste Santini en diffamation pour un certain nombre des choses qu'ils ont dites et écrites sur moi. Et donc, je veux que, à la mairie de Mantes-la-Jolie, dans les mois qui viennent, après cette audit, nous ayons les plus hauts standards en matière d'éthique et de transparence en ce qui concerne la commande publique. C'est très important parce que pendant la campagne, beaucoup d'habitants m'en ont parlé. Il y a un trouble dans la ville où beaucoup d'habitants ont l'impression que les règles des marchés publics ne sont pas respectées. Elles le sont, en tout cas elles l'étaient quand j'étais maire, mais on peut sans doute encore les améliorer. Et puis, troisième chose, j'ai demandé un audit concernant non pas le fonctionnement de la police municipale, mais pour que la police municipale ait un cadre juridique clair sur la façon dont elle travaille et la façon dont les informations remontent au maire. Donc cet audit, il n'épargnera personne, pas même moi. Je me l'applique aussi à moi-même parce que je suis certain que même si j'ai la conscience absolument tranquille sur tout ce qui a été fait pendant mon mandat, il y a sans doute un potentiel d'amélioration et les Mantais sont en droit d'exiger que les règles les plus élevées, les standards les plus élevés en matière d'éthique soient appliqués à la mairie de Mantes-la-Jolie. C'est le but de cet audit.
Alors, puisqu'on parle d'audit, il y a eu un audit de la Cour des comptes il y a eu un peu plus d'un an. Et aujourd'hui, vous avez envoyé une lettre à Michel Vialet, l'ancien maire de Mantes-la-Jolie, où vous lui réclamez 50 000 euros. Pourquoi ? D'où sort cette somme ?
Alors, en fait, je souhaitais pas que ces informations deviennent publiques, je vous le dis, parce que quand je l'ai fait, je l'ai fait directement à Michel Vialet, parce que je considère que cette affaire a fait beaucoup de tort à la ville et surtout à l'image des élus. Donc, maintenant que cette information est publique, je m'en explique. C'est très simple, la Cour des comptes a, dans son rapport, épinglé la façon dont Michel Vialet avait engagé un certain nombre de frais quand il était député et maire en même temps. Et elle nous a chiffré ce qu'elle estimait être le préjudice de la ville.
C'était 10 000 euros ?
Non, c'était plus que ça. Parce qu'une partie de la somme a été remboursée déjà par Michel Vialet, puis il y avait une partie de la somme qui était encore en attente. Donc, pendant la campagne, ce sujet est revenu très souvent sur le tapis quand je discutais avec des habitants. Et donc, j'ai décidé de demander à Michel Vialet de rembourser le reste des sommes dues. Il a donc reçu un courrier de ma part et ce qu'on appelle un titre de recette, c'est-à-dire une demande de paiement en direction de la ville. Pour l'instant, il n'a pas répondu à ce courrier, mais nous verrons quelle sera son attitude dans les prochaines semaines. Vous savez, c'est pas une vengeance, c'est juste l'application stricte du droit. La Cour régionale des comptes demande que la ville titre un certain nombre de sommes, nous le faisons. Quand elle avait fait son audit, elle avait d'ailleurs réclamé 80 euros en ce qui me concernait et j'avais exactement suivi la même procédure. Je m'étais émis un titre de recette pour rembourser. Donc, nous sommes à la fin de l'histoire, je l'espère.
Alors, vous avez fait signer, lors du conseil municipal du 7 juin dernier, une charte de déontologie et d'éthique à tous les conseils municipaux, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qui est inscrit dans cette charte ?
Cette charte, elle rappelle un certain nombre de principes qui s'appliquent aux élus locaux. Le respect de la laïcité, le fait qu'on ne profite pas de ses fonctions pour obtenir des avantages. En gros, elle a le mérite de mettre un cadre et un cadre public sur ce que doit être l'exercice normal d'un mandat de conseiller municipal, d'adjoint au maire ou de maire. Donc cette charte, elle n'est pas révolutionnaire, elle n'invente pas de nouveaux principes, elle ne fait que dire les principes qui doivent s'appliquer à une gestion municipale. Et donc elle a été adoptée par le groupe majoritaire. C'est la première fois que ça arrive à Mantes-la-Jolie. Maintenant, la question, c'est celle du suivi et du respect de cette charte. Et donc, nous sommes en train de réfléchir pour voir comment un contrôle extérieur peut s'appliquer à l'application de ces principes. C'est des principes qui ont le mérite de la clarté et qui vont permettre à tous les Mantais de savoir dans quel cadre nous agissons.
L'opposition vous a d'ailleurs un petit peu reproché qu'elle n'était pas assez complète.
Oui, mais vous savez, quand vous faites quelque chose, il y a toujours des gens qui trouvent que vous n'allez pas assez loin. Moi, en tout cas, je suis le premier maire qui a fait voter en conseil municipal une charte qui s'applique à tout le monde. Donc, si on peut l'améliorer, on l'améliorera. Mais Vous savez, en la matière, il n'y a pas une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire. On tâtonne, forcément, mais en tout cas, moi je suis très fier de cette charte. Beaucoup de Mantais et de Mantaises m'en ont parlé en me disant qu'ils étaient heureux qu'il y ait enfin un cadre connu qui s'applique. Donc on va continuer dans cette direction.
Alors, vous désirez, avant le 21 septembre 2022, améliorer l'accueil du public dans les différents services municipaux. Alors, qu'est-ce qui va changer ?
En fait, ce qui va changer, c'est que notre façon... Je veux que nous soyons plus efficaces et plus rapides dans notre façon d'accueillir le public et de traiter ses demandes. Il faut que vous sachiez que la mairie de Mantes-la-Jolie dispose d'un certain nombre de labels qualité, notamment en matière d'état civil. Et donc, nos agents municipaux font un travail formidable au quotidien et font un travail formidable parce que souvent, ils se retrouvent en première ligne face à des gens qui sont pas contents, qui, par exemple, trouvent que leur demande de passeport ne va pas assez vite, leur demande de carte d'identité ou un certain nombre d'autres choses. Donc, j'ai toute confiance dans la capacité de mes agents à répondre aux besoins du public. Mais il y a certaines choses qu'on peut améliorer. Les délais sur certaines demandes. La façon dont on accueille le public. Quand vous prenez, par exemple, le hall de l'hôtel de ville de centre-ville, vous voyez bien que c'est pas ergonomique pour accueillir un certain nombre de situations. Il y a assez peu de confidentialité, les locaux sont vétustes et donc ne permettent pas d'accueillir les gens de la façon la plus efficace possible. Donc ce qui va changer, c'est qu'on va réfléchir ensemble à la façon dont on peut améliorer ça. Et si on doit faire des travaux, notamment pour réorganiser l'accueil dans les accueils dans les mairies ou les processus, eh ben effectivement on le fera. Donc ce que j'en attends, c'est une simplification, plus de rapidité et aussi une piste sur laquelle nous travaillons, c'est la numérisation. Il y a beaucoup de choses qu'on fait actuellement à l'hôtel de ville et que les familles pourraient faire de façon dématérialisée. Souvent, les citoyens ne comprennent pas comment leur vie quotidienne peut se simplifier de façon magistrale grâce notamment aux smartphones, etc. Et pourquoi ils sont obligés d'aller à l'hôtel de ville pour faire un certain nombre de démarches. Donc, c'est cette réflexion qu'on a commencé déjà avec les services de l'hôtel de ville. On va la poursuivre dans les mois qui viennent et quand on aura les résultats de nos études et de nos réflexions, eh bien, on annoncera ce qu'on va faire. Mais ça, j'y crois beaucoup parce que ça participe aussi beaucoup à la relation de confiance entre les citoyens, le maire et l'équipe municipale.
Alors, vous lancez également une opération de propreté dans tous les quartiers. Alors, est-ce qu'elle a commencé ? Et c'est pas une compétence GPSO ?
Alors, la propreté urbaine est une compétence de la communauté urbaine, mais le maire a des pouvoirs de police en matière de propreté, en matière de déchets, etc. Donc, la propreté, c'est l'affaire de tout le monde. Et je commence par dire ici que tous les gens qui balaient nos rues, qui ramassent nos déchets tous les jours et qui font en sorte que Mantes-la-Jolie soit une ville propre, sont des gens qui sont impliqués dans leur travail, qui se lèvent tôt, qui font un travail difficile et qui méritent d'être remerciés. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est un appel à la responsabilité collective. Si personne ne jetait de déchets par terre, il n'y aurait pas besoin de les ramasser. Le ramassage des déchets hors poubelle tous les jours, etc., ça nous coûte des millions d'euros par an. Des millions. Donc, la première chose qu'on puisse faire en matière de propreté, c'est de changer nos comportements pour faire en sorte d'être tous propres collectivement. Ceci dit, on peut aller encore plus loin. Il y a un certain nombre d'habitants, d'associations qui nous ont fait savoir qu'ils étaient disponibles pour nous aider. Il y a quelques semaines, par exemple, un samedi après-midi, je suis allé faire un tour de paddle sur la Seine parce qu'on a une association qui ramasse, grâce à des paddles, les déchets plastiques qui sont coincés dans les berges de Seine. Il y en a d'autres qui font dans certaines villes ce qu'on appelle des clean-up challenge, c'est-à-dire des associations et des habitants qui nettoient leur quartier. Donc l'idée, c'est pas du tout de se substituer au service de la communauté urbaine, c'est de voir comment, grâce à une mobilisation citoyenne et associative, on peut passer un nouveau cap supplémentaire et rendre notre ville encore plus propre. Pour ça, il faut qu'on organise ça avec les associations et les habitants. Et donc, on y travaille en ce moment. C'est mon adjointe Jamila Elbelhache qui est en charge notamment du cadre de vie qui s'en occupe. Et dès la rentrée, on va se mobiliser parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où on a encore des déchets sauvages, des ordures ménagères qui sont jetées n'importe comment et qu'il faut que tout le monde ait conscience que la propreté, c'est la première des sécurités et c'est ce qui influence durablement notre cadre de vie. Donc c'est tous ensemble qu'on va se mobiliser et qu'on va réussir.
Alors vous désirez organiser un conseil municipal extraordinaire dédié au versement des subventions aux associations. Je vous cite « en toute équité et en toute transparence ». C'était pas le cas avant ?
Je pense que beaucoup d'habitants de Mantes-la-Jolie pensent que les subventions associatives sont données, pardonnez-moi l'expression, à la gueule du client et sans un véritable dialogue avec les instances municipales. À Mantes, on a quelques très grosses associations qu'on subventionne fortement. Je pense par exemple à l'association sportive mantaise. Qui a fêté ses 70 ans ce week-end, exactement, et qui fait un travail d'ailleurs formidable en direction de nos jeunes et de nos moins jeunes. Et puis on a une multitude de petites associations qu'on subventionne moins parce que leurs besoins sont moindres. Notre politique de financement associatif, elle n'est pas comprise par les présidents d'associations et beaucoup me l'ont fait remonter. Donc ce que je veux, c'est que tout le monde puisse comprendre le cadre dans lequel nous travaillons. Si vous n'avez pas besoin d'argent public, la liberté associative, c'est une liberté constitutive en France, constitutionnelle pardon, en France. Donc si vous n'avez pas besoin d'argent public, vous faites ce que vous voulez et le maire n'a pas à se mêler de vos activités associatives du moment qu'elles respectent la loi. Mais si vous demandez des subventions publiques et si vous en obtenez, vous devez rentrer dans le cadre général de la politique fixée par la ville. Et donc l'idée de ce conseil municipal, c'est de réexpliquer la façon dont nous fonctionnons d'un point de vue budgétaire, d'expliquer aux associations en quoi elles peuvent prétendre à des subventions, en quoi ces subventions ne sont pas un droit, ça c'est très important, c'est une facilité qui est donnée pour exercer une mission de service public, et nous allons réexpliquer tout ça pour que tout ça soit beaucoup plus clair et beaucoup plus transparent.
Alors, l'opération SOS Logement, ça vous tient à cœur, en quoi consiste-t-elle ?
Alors, le logement, c'est vraiment un drame à Mantes-la-Jolie et dans notre pays. Les chiffres disent qu'il manque 1 million de logements. Et à Mantes-la-Jolie, 80% des gens qui viennent me voir ont un problème de logement. Il y a deux sortes de problèmes. Il y a des gens qui habitent dans des logements insalubres, donc aussi bien dans le parc social que dans le parc privé, donc des logements qui ne répondent pas aux critères de qualité normaux d'un logement normal. Et puis des gens qui habitent dans des logements non adaptés. Il se peut que dans la même permanence, une dame seule qui habite dans un F5 au Val-Fouré vienne me voir en me disant qu'elle veut déménager, qu'elle demande depuis plusieurs années à son bailleur de déménager parce que maintenant elle est toute seule et qu'elle voudrait un logement plus petit, et qu'une famille de 6 personnes vienne me voir en disant qu'elle habite dans un F2 ou un F3 et qu'elle demande aussi à déménager depuis plusieurs années et qu'elle n'y arrive pas. Donc, ce que j'essaye de faire avec les élus et les collaborateurs de la ville, c'est de recenser toutes ces situations et de faire en sorte que nous puissions y apporter un certain nombre de réponses. Il y a beaucoup de réponses qui dépendent pas directement du maire. Les bailleurs sociaux ne sont pas sous l'autorité du maire. C'est pas le maire qui attribue les logements sociaux. Donc du coup, notre travail, c'est un travail de sensibilisation vis-à-vis des bailleurs et de mobilisation de nos services pour que nous puissions, lorsque cela est nécessaire, faire des constats et des constats d'insalubrité pour faire en sorte que nous puissions, dans la mesure du possible, déplacer les gens qui en ont besoin vers des logements plus adaptés. C'est un chantier colossal qui nous attend. On aura besoin de l'aide de tout le monde et notamment de tous les bailleurs. Parce que j'ai l'habitude de dire, et je pense profondément, que quand on n'a pas un logement adapté à ses besoins, on ne peut pas avoir un projet de vie normal. Et donc, le logement, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est d'ailleurs pour ça qu'hier soir, j'ai tenu une réunion publique de concertation sur ce qu'on appelle une opération programmée d'amélioration de l'habitat, pour permettre, en centre-ville et dans le quartier gare, aux propriétaires de logements de les aider à faire les travaux, chez eux, ou bien dans des logements qu'ils doivent louer pour remettre sur le marché un certain nombre de biens qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas habitables. On a aujourd'hui, dans le centre-ville de Mantes et dans le quartier Gare, entre 500 et 600 logements qui sont vides et qui sont vétustes. On va aider les propriétaires à faire les travaux pour qu'ils puissent remettre ces biens sur le marché, puisque évidemment on peut construire de nouveaux logements. Mais l'important aussi, c'est de remettre sur le marché les logements qui existent et qui ne demandent qu'à être loués.
Alors il y avait deux autres sujets, deux autres objectifs. La fête de la musique, donc ça s'est bien passé à Mantes-la-Jolie avec une nouvelle formule. Et le dernier objectif, c'était vous vous êtes fixé un été éducatif, sportif, culturel digne de ce nom. C'est-à-dire quoi digne de ce nom ?
Ben, ça veut dire qu'il faut qu'on agisse sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'il faut qu'on agisse pour les habitants qui restent à Mantes-la-Jolie. Donc c'est tout ce qu'on va faire autour du village des sports, autour de la remise à niveau scolaire dans les dernières semaines de l'été pour que les enfants qui ont des difficultés scolaires puissent se remettre à niveau avant la rentrée. C'est tout ce qu'on va faire aussi en matière culturelle, en matière de sortie dans nos centres de loisirs, pour amener les enfants en dehors de Mantes quand c'est possible. Et puis c'est aussi tout ce qu'on va faire pour permettre à un certain nombre de familles de partir en vacances, notamment avec des associations partenaires, avec l'État aussi qui nous aide beaucoup. L'idée c'est de faire en sorte que les habitants modestes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances et qui restent à Mantes-la-Jolie puissent passer un été utile. J'y tiens parce que ça fait plusieurs années qu'on a eu des pandémies, que beaucoup de gens n'ont pas pu partir et que quand vous habitez dans un logement qui n'est pas adapté à vos besoins et qu'en plus vous n'avez aucune perspective ou bien de partir avec vos enfants ou bien de les confier à une structure à laquelle vous faites confiance, bah forcément vous avez l'impression de jamais être en vacances. Donc à Mantes, on va faire beaucoup de choses et puis aussi on va aider des gens à partir. La mairie de Mantes-la-Jolie n'est pas un organisateur de colonies de vacances, mais en s'appuyant sur nos partenaires, sur des partenaires fiables, fidèles, et en profitant aussi d'un certain nombre de dispositifs, notamment je pense aux dispositifs d'État, on va réussir à faire en sorte que ces vacances soient utiles et agréables au plus grand nombre. C'est l'objectif que je me suis fixé et on va y arriver.
Et pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui viennent de découvrir cette information, comment ils peuvent se renseigner? Auprès de qui?
Ils peuvent appeler le service jeunesse de l'hôtel de ville. Ils peuvent aussi aller sur le site internet de la ville où il y a un certain nombre d'informations et puis appeler à l'hôtel de ville pour être orienté vers les bons services, pour pouvoir voir aussi dans les centres de vie sociaux de quelles aides et de quel dispositif ils peuvent bénéficier.
Alors, vous nous parliez de la nouvelle lettre. Est-ce que vous pouvez nous donner les sujets de la nouvelle lettre au Mantais, qui sera distribuée bientôt?
Ah bah justement, on va parler de l'été. On va parler aussi un petit peu de ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé. L'idée, c'est vraiment d'avoir un format plus court, plus ramassé, avec moins d'informations, mais des informations plus percutantes. J'aime cette façon de communiquer parce que dans le côté lettre, il y a un côté direct, qui plaît aux habitants de Mantes-la-Jolie. C'est des outils qui coûtent pas très cher, qui sont assez faciles à distribuer et qui permettent de mieux faire comprendre ce qu'on fait. J'ai l'habitude de dire à mes équipes que tout ce qui n'existe, c'est que ce qui est compris par la population. Donc notre premier rôle, c'est d'expliquer notre action au quotidien. Beaucoup d'habitants ne savent pas ce que font l'immense majorité des services municipaux. C'est un problème parce que beaucoup de choses sont faites et beaucoup de dispositifs ne sont pas utilisés. Donc un des rôles fondamentaux de l'équipe municipale, c'est d'aller en direction de la population le plus possible pour expliquer, convaincre et surtout ramener les habitants de Mantes-la-Jolie vers nos dispositifs pour qu'ils puissent en bénéficier, puisque parfois certaines personnes ne sollicitent pas les dispositifs et après se demandent pourquoi ils en sont exclus. Donc on a un gros travail de pédagogie à faire et c'est à ça que participe cette lettre.
Allez, dernière question, Raphaël Cogné, puisque vous aimez le contact avec les gens. Comment on fait pour vous rencontrer?
Alors, pour me rencontrer, il y a plusieurs solutions. Ou bien on envoie un mail sur l'adresse maire@mantes-la-jolie.fr, ou bien on appelle à l'hôtel de ville ou dans les mairies de quartier pour faire remonter les demandes de rendez-vous et on demande le secrétariat du maire. Et puis, beaucoup de gens aussi m'interpellent sur les réseaux sociaux, sur Messenger, sur Facebook. En ce moment, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui veulent me rencontrer. Donc, on a doublé les horaires de mes permanences pour que je puisse les rencontrer le plus possible avant l'été. Et on arrive très souvent en quelques semaines à organiser ou quelques jours à organiser un rendez-vous avec moi. Donc, voir le maire de Mantes-la-Jolie ou ses adjoints, c'est pas du tout quelque chose de compliqué.
Il est 8h30, Raphaël Cogné, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette interview sera retrouvée sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique les rendez-vous du Mantois. Il est 8h30, c'est l'heure pour nous de retrouver le journal d'information locale sur BPM.